Ah oui, il y a le carré rouge.
Bonsoir mesdames et messieurs. Bonsoir Ludovic Esquand.
Bonsoir.
Bienvenue à Bordeaux, à la librairie Mola.
Merci.
Et donc, c'est en tant qu'auteur que vous êtes là ce soir.
Oui.
Et non plus comme éditeur. Est-ce que ça vous fait une drôle d'impression ?
Bah oui, c'est étrange parce que j'ai souvent entendu les auteurs dont je m'occupe venir ici pour signer leurs livres. Alors parmi lesquels, il y a évidemment Sylvain Tesson, Marc Duguin, Philippe Labro, Agnès Emski qui malheureusement est décédé récemment, Jean-Marie Le Clézio, enfin bref, tout un tas d'auteurs et qui je sais, aiment cette librairie et la manière dont ils sont accueillis. Et alors, figurez-vous que moi, c'est pas la première fois que je viens à Bordeaux, mais je pense que c'est la première fois que je passe autant de temps dans la librairie Mola, que je connais depuis, depuis un long moment, depuis 17 ans que je travaille dans l'édition et qui a une réputation excellente à Paris et je pense à travers la France.
Donc vous travaillez comme éditeur chez Gallimard.
Oui.
Et vous vous occupez d'auteurs, donc. Et c'est par ces auteurs, Sylvain Tesson que vous venez de citer, et aussi Jean-Christophe Ruffin, que vous venez de basculer. Alors non pas dans le vide, au contraire même.
Non.
Mais de l'autre côté, finalement, de ce monde éditorial, puisque vous êtes passé des salons ou des tavernes, d'ailleurs, où se discutent les projets de romans. À cette tribune et aussi à la page blanche. Vous avez donc écrit L'ascension du Mont Blanc. Et ça vous projette aussi dans un club assez fermé qui est celui des écrivains de montagne. Est-ce que, par exemple, vous allez participer au salon de Font-Romeu en juin prochain, le salon des écrivains de montagne? Tout d'un coup, vous êtes dans un club très différent.
J'ai un peu grillé les étapes là en faisant ce livre parce que c'est un premier livre, donc on rentre dans ce cercle pour lequel j'ai énormément moi d'admiration, le cercle des écrivains, des auteurs. C'est ça qui m'a amené vers ce métier parce que au-delà du plaisir du texte, il y a un vrai plaisir à les côtoyer. Pour tout ce qu'ils ont d'imprévisible et de alors parfois d'un peu qui peut être parfois difficile et douloureux, mais qui le plus souvent est enrichissant. Ils ont une manière de voir la vie qui est un peu à part et que j'aime bien. Et voilà, j'aime bien leur compagnie. Et ensuite, effectivement, je me suis retrouvé projeté dans un autre club encore plus fermé où je ne me sens toujours pas légitime. C'est celui des alpinistes. Alors, écrivain alpiniste, tout d'un coup, ça fait un tout petit club et où il n'y a pas, enfin voilà, effectivement, il n'y a pas beaucoup de monde. Alors même que dans notre pays, il y a une vraie tradition à la fois d'escalade. Nous avons de grands pionniers que vous connaissez tous, Rémi Fah, Mazot, Herzog, Des Maisons. Tous ces gens qui ont fait la montagne et qui en ont repoussé les limites, et en nous avons en même temps une grande tradition de littérature et de littérature de montagne. Or, il se trouve, pour une raison que je ne m'explique pas vraiment, que les derniers grands récits de montagne, il faut remonter à Frison Roche, ou à éventuellement Rébuffat. Pour retrouver un texte qui parle à tout le monde. Et depuis les années 60-70, non pas que la littérature de montagne s'est tarie, mais moins d'écrivains se sont intéressés, d'abord pratiquent la montagne, et ensuite ont osé s'aventurer sur le terrain de la montagne. Alors Sylvain Tesson me disait qu'il trouvait ça étrange, parce que par comparaison, il explique que la mer et les océans a beaucoup attiré d'auteurs, de Victor Hugo à Melville, en passant par Conrad et d'autres, et des plus récents, qui avaient un Moby Dick, qui avaient les Travailleurs de la mer, qui avaient Typhon, mais que la montagne n'avait pas trouvé, elle, son Moby Dick, et il se demandait pourquoi. Et je pense que une des choses que j'ai pu observer en faisant de la montagne, et puisque je continue à en faire avec beaucoup de plaisir, c'est que la montagne oppose à l'imaginaire de l'écrivain quelque chose d'absolument gigantesque. Une montagne, c'est voilà, c'est un amas de rochers, un amas de pierres. Et ce que vous avez un peu moins avec la mer, elle laisse beaucoup plus de latitude à l'imagination. D'abord parce que elle s'étale sur l'horizon, que elle n'est pas toujours elle n'est pas toujours agitée, et que elle laisse un espace. Alors que la montagne oppose à l'imaginaire de l'écrivain une telle puissance, une telle force immédiate que l'effort d'imagination de l'écrivain doit, en plus de celui de l'angoisse de la page blanche, doit résoudre la puissance de la montagne. Alors je pense que c'est une des explications. J'en reviens à la première question. Je suis éditeur. Je n'avais pas jusqu'à présent, je n'avais jamais fait de montagne. Je n'avais fait que de la randonnée à Chamonix, dans les Cévennes, dans le Vercors. J'aime beaucoup marcher. J'aime beaucoup le contact de la nature. Je trouve que, au fond, on peut très bien se dire alpiniste en ne faisant que marcher dans la montagne, puisque l'intérêt c'est d'y être. Et que on en retire autant de plaisir et de plénitude en y marchant, pas forcément en y grimpant, et que ça a été aussi le moment de ce saut dans l'inconnu, le saut faire de l'escalade, ça a été aussi découvrir un inconnu que j'ai complètement découvert et grâce à eux d'ailleurs, grâce aux écrivains.
Vous êtes arpenteur, donc oui. Effectivement, marcher ou même faire de la moto à grande vitesse horizontalement, oui. Vous connaissez. Oui. Vous êtes directeur de la collection L'Arpenteur, c'est oui, un oui. Petit clin d'œil aussi au passage.
Absolument.
Bien sûr.
J'aime bien L'Arpenteur parce que cette notion d'arpenter, de
mesurer presque.
Exactement, et de se promener, et pas forcément là où on l'attend de vous.
Mais la verticalité, effectivement, c'est nouveau. Non seulement c'était nouveau, puisque maintenant vous continuez à en faire de la montagne, mais vous en aviez très peur, quoi. Vous aviez le vertige. Hein. Nous sommes nombreux, hein, humains, à avoir le vertige. Il suffit d'un escabeau. Ouais. Et du coup, le pari que vous avez pris un jour, alors il faut remercier Sylvain Tesson, parce que finalement c'est lui qui vous a embarqué dans ce pari. Et vous le racontez avec beaucoup de simplicité dès le début du roman, quand vous lui faites un aveu très intime. Et alors, ça aussi, ça nous interroge sur les relations. Vous dites qu'au départ, qu'il y a des relations professionnelles entre un éditeur et ses auteurs, mais on voit très vite que ça va beaucoup plus loin, puisque certes, un auteur est souvent à nu, enfin, il montre son intimité dans son œuvre, mais peut-être que justement, c'est ce qui vous a poussé, vous aussi, à vous dévoiler très intimement et à faire cet aveu que ça n'allait pas du tout bien dans votre vie à ce moment-là, et que vous aviez l'impression d'être piégé, et vous dites... c'est donc au début, j'avais marqué la page, voilà. J'aimerais être comme toi, ne pas être prisonnier de ma vie et partir quand je veux. Et alors la question fatidique de Sylvain Tesson, es-tu irais où? Et vous dites, oh, très haut, pour respirer un autre air. Alors bien entendu, très vite, Sylvain Tesson vous dit, mon cher Ludovic, je vais t'emmener au sommet du Mont Blanc. Mmh. Voilà. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça?
Ah, complètement. Mais oui. Vraiment, la scène du début, c'est vraiment passé comme ça. Alors, je vais répondre dans l'ordre à un certain nombre de questions que vous avez soulevées dans ce que vous venez de dire. D'abord, quand vous êtes éditeur d'un écrivain, vous créez avec lui une relation, en effet, de proximité, d'intimité qui est induite par la nature du travail que vous faites, qui est un peu particulier, dans le sens où un écrivain, la preuve en est avec ce livre, quand un écrivain écrit un ouvrage, même si c'est de la pure fiction, il met beaucoup de lui-même. Et il se met à nu, d'une certaine manière, et il offre à l'éditeur, qui est son premier lecteur, le plus souvent objectif, la possibilité d'être jugé sur ça, mais d'être jugé jusque dans le plus profond de ce qu'il est dans ses tripes. Donc c'est une, c'est à la fois une relation professionnelle et en même temps c'est une relation d'intimité extrême. Donc dans ces cas-là, l'éditeur évite le plus souvent de, pour ne pas ajouter du poids dans cette relation. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire le plus souvent, de trop faire peser sur l'auteur ses propres problèmes. Quand à cette époque-là, j'étais en train de me séparer de ma femme et de la mère de mes enfants, et donc j'avais dissocié et je ne voulais pas parler de ça aux auteurs pour pas que. Parce que quand eux arrivent pour vous voir, c'est pour trouver chez vous une source d'énergie pour être galvanisé, pour que vous les incitiez à aller de l'avant et pas arriver avec vos problèmes pour que bon. Et puis ça faisait 7 ans que je connaissais Sylvain, que je travaillais avec lui. Et puis ce soir-là, je me suis dit par honnêteté, voyant la tête que j'avais, la tronche un peu défaite, on dînait ensemble. Je me suis dit, je vais lui dire la vérité. Et puis au moins, comme ça sera dit, je vais pas m'étendre, mais au moins je vais lui dire. Pour qu'il y ait une... Et je lui ai dit ça. Alors effectivement, j'ai un peu transgressé le... Et puis, il a une réaction donc que je n'attendais pas. C'est que là, c'est lui qui m'a dit, cette fois-ci, d'habitude, c'est toi qui m'aides quand on travaille ensemble et que tu m'aides, tu m'encourages... quand tu relis mon texte, tu peux aussi m'aider à voir des choses que je n'ai pas vues, etc. Et là, c'est moi qui vais t'aider. Ça ne change rien, notre relation, mais je vais t'aider parce que j'ai envie de t'aider. Parce que, voilà, ça fait un certain nombre d'années qu'on est ensemble, il y a une relation de confiance, d'estime réciproque et d'amitié qui rend possible ça. Alors voilà, j'ai accepté. Ensuite, vous m'avez demandé si c'était nouveau dans ma vie, c'est ça le... Oui, je...
Par rapport au vertige.
Ah oui, je suis totalement ordinaire, je pense. C'est pour ça que c'est pour ça que Sylvain m'a dit que tu devrais publier ce livre, parce que c'est le témoignage de quelqu'un qui a le vertige et qui n'est pas préparé pour la montagne, et qui pourtant... fait le Mont Blanc, et c'est intéressant de donner ce point de vue. Oui, j'ai un vertige. Au moment où je le rencontre, rien que le fait de monter sur une échelle et de me lever à la hauteur des câbles, là, je ressentais l'angoisse. Et malgré ça, peut-être parce que j'ai eu immédiatement confiance en lui et que, sachant que tout au long de son existence et de ses aventures nombreuses, il avait réussi à se sortir de mauvais pas. Je me suis dit, tant que je suis avec lui, ça passera. Et puis, j'ai mis la question du vertige de côté très vite, parce que je voulais tellement le faire que j'ai pensé que on verrait plus tard. Et alors, effectivement, moment où j'ai...
Il y a de sales moments après, parce que...
Le premier moment où j'ai...
Au pied du mur.
Quand je suis arrivé au pied de la parole, alors là, il a bien fallu que je trouve une solution à ce problème de vertige.
Il y a beaucoup d'humour dans le livre aussi, parce que vous racontez votre préparation, justement. Alors, une préparation suivie médicalement, mais avec une certaine...
Avec de la transgression. Voilà, je ne respecte pas toutes les règles.
Avec beaucoup de
transgression. Parce que si on suit toutes les règles pour être en bonne santé, on peut se rendre compte qu'on peut devenir très malheureux. Alors, on est en bonne santé, mais très malheureux. Alors, voilà, j'ai fait ce... Bon.
Oui, puis c'est bien dans le style de Sylvain Tesson aussi.
Ouais, moi, j'aime le vin.
Se moquer
bon
carrément
vin.
De tout.
J'aime sortir les cigares. Alors, je me suis dit, je vais faire du jogging et puis je vais fumer le cigare. On peut faire les deux en même temps.
Pour autant, la préparation est quand même, elle n'est quand même pas légère. Enfin, vous vous astreignez pendant des mois et des mois, comme si vous prépariez un marathon, à courir plusieurs fois par semaine. Ça, c'est quand même très important, parce que est-ce qu'il n'y aurait pas un malentendu à lire ce livre comme si le message était n'importe qui peut aller sur le Mont-Blanc comme ça, même s'il a le vertige, et même si c'est un urbain, un parisien, voilà, n'hésitez pas, allez-y. Est-ce que ce n'est pas ça le message?
Non, le message, c'est celui-là, celui-ci, celui dont vous venez de parler. Vous êtes urbain, pas préparé, vous avez le vertige, vous pouvez y aller, mais il y a des conditions que j'explique dans le livre. Il faut vous préparer, mais tout le monde peut se préparer. C'est pas juste moi ou des gens qui ont un physique hors du commun. Non, moi, si je l'ai fait, alors que je n'étais pas particulièrement sportive, pendant 7 mois, concrètement, j'ai couru 3 fois par semaine, 1 heure. J'ai fait des pompes tous les matins, des tractions, et point final. Je pense que c'est à la portée de tout le monde de courir 3 fois par semaine, pourvu qu'on ait vraiment ce désir en soi d'aller en haut du Mont Blanc. Voilà. Mais effectivement, ça se prépare, mais c'est pas réservé, c'est pas quelque chose qui est réservé à une élite. Moi, j'aime pas du tout ce. Si vous le préparez, si vous prenez un guide, que vous le faites avec des gens bien, que vous êtes dans une bonne cordée, vous avez toutes les chances d'y arriver. La seule chose qui peut vous empêcher d'y arriver, c'est la météo. Voilà. Mais si vous vraiment, hein, je le dis en connaissance de cause, cette année, je vais refaire le Mont Blanc pour la 2e fois et je vais emmener mon cousin qui a toujours rêvé de le faire et qui, pareil, pour les mêmes raisons, il n'a pas le vertige, lui, mais il a toujours eu peur de... Son père est alpiniste. Du coup, il a conçu de cette montagne une sorte de... Il l'a faite plus grande qu'elle ne l'est, au fond. Et je lui dis, mais tu as tort. Et tu... entraîne-toi et je t'emmène là-haut. Moi, à mon tour, je vais t'emmener là-haut. Tu vas voir. Et même si on n'arrive pas là-haut, ça sera extraordinaire, de toute façon. Même, vous voyez, madame, même si je m'étais arrêté à 400 mètres du sommet, ce que j'ai vu là-bas m'aurait rempli suffisamment fortement pour que j'en retire beaucoup de bonheur.
Alors c'est un rêve que beaucoup ont depuis l'enfance. C'est vrai qu'on apprend à l'école le Mont Blanc, 4810 mètres maintenant, je crois qu'il a été réévalué. Autrefois, on apprenait 4807
mètres. 4807 mètres, 4810 mètres, puis ça rebaissait, puis ça remontait, parce que les plaques... La neige et puis les plaques tectoniques bougent et foncent, ont une incidence, si j'ai bien compris, sur l'altitude, la hauteur du Mont Blanc.
Oui, et pas sur sa déclivité. Enfin, c'est pas une question de gigitomètre.
Ah non, 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 pas du tout. Non, non.
Une plaisanterie entre vous, entre Sylvain Tesson, Jean-Christophe Ruffin et vous, et Daniel Dulac aussi,
qui était le guide.
Sur ce flacon d'alcool qui...
Quand on est arrivé là-haut,
participe.
On avait amené un très bon cognac et on a bu un coup de cognac en arrivant là-haut. Et il y avait des Suisses à côté de nous et qui eux étaient assez choqués qu'on boive du cognac. Et on leur a expliqué après, et puis bon, ils ont fini par en prendre.
Ah oui.
Mais ils n'avaient pas eu l'idée, alors bon... J'aurais dit, vous savez, on peut faire... Et dans ce livre, justement, je raconte aussi un aspect que j'aime bien chez eux, assez inattendu. Ce sont deux écrivains qui ont énormément d'humour, beaucoup d'autodérision. Et au fond, quand je n'ai pas eu très peur du vide, j'ai souvent beaucoup rigolé. Parce que Sylvain fait le clown en permanence, que Jean-Christophe a une espèce d'humour comme ça, froid... c'est Jean-Christophe qui a permis, par son calme et son Jean-Christophe Ruffin, parce qu'il est, il a une expérience de la vie, de l'humanitaire, des choses, du recul, qui a permis dans les moments de un peu de où ça allait trop loin, de ramener tout le monde un peu à une attitude plus raisonnable, même si lui fait des choses que voilà, je m'a beaucoup surpris en fait, beaucoup surpris.
Oui, c'est un auteur extraordinaire aussi. Ah ouais. À travers son œuvre, on voit bien un parcours humain, lui aussi hors du commun. Ouais. Et c'est de son chalet, donc au pied du Mont Blanc, que vous êtes parti.
Voilà, il nous a accueillis gentiment. Là, il a un chalet qui est exactement dans un petit village qui s'appelle Saint-Nicolas de Véros, qui est entre Saint-Gervais et Mégève, et qui est perdu dans la nature. Et quand on est sur la terrasse de Jean-Christophe, on voit le Mont Blanc par l'arête de Bionacé. Alors, vous avez deux vues spectaculaires du Mont Blanc, celle qui est quand vous êtes dans à Chamonix, avec le Mont Blanc qui comme ça se dresse devant vous dans Chamonix, et puis cette voie-là du côté des Contamines, avec l'arête de Bionacé, le glacier de Bionacé et le Mont Blanc. Et c'est cette voie-là qu'on appelle la voie royale, la voie normale. Et il y a le refuge du goûter et la nuit, quand on est là et que le jour se couche, on voit une petite lumière qui s'allume presque à hauteur du mont, presque en haut du Mont Blanc, et c'est le refuge du goûter. Et avant de le grimper, pendant les quelques jours qui ont précédé, j'ai rêvé du Mont Blanc. Je me suis endormi en le regardant. C'est comme une puissance, comme un dieu. Enfin,
Oui. Alors là, on aborde la dimension.
C'est pas pour rien qu'il est connu. Hein. Enfin, je pense aussi qu'il y a une sorte de. Il y a une beauté. Et d'ailleurs, vous le savez sans doute. Je vous apprends rien, mais il y a de nombreuses nationalités qui viennent chaque année grimper le Mont Blanc. Quand on était là-bas, il y avait des Chinois, des Allemands, des Croates, des Américains. Et tous ces gens ne viennent pas là juste parce que c'est beau. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de. Il va bien au-delà. Il y a quelque chose avec cette montagne de très spécial, mais vraiment, qui se passe. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment la protéger, la respecter et en être fier.
Il y a une dimension spirituelle aussi dans ce que vous écrivez, dans ce que vous avez vécu, parce que vous écrivez avec beaucoup de simplicité ce que vous avez vécu. C'est aussi ce qui fait l'agrément. Du roman, enfin du livre.
Merci.
Appelons-le un roman, pourquoi pas.
Oui, un roman.
Un roman. Donc aux éditions Alary. C'est la simplicité de l'écriture et la sincérité qu'on sent immédiatement. Enfin, voilà, vous racontez des choses dont peut-être certains ne seraient pas fiers. Enfin, des moments de faiblesse, des moments de promiscuité, des moments de doute, de toutes sortes de moments divers, et aussi des moments de grand bonheur, des moments d'exaltation aussi. Mais tout cela avec beaucoup de simplicité. Et de...
Écoutez, merci, ça me fait plaisir. Et j'ai recherché cette simplicité d'abord pour plusieurs raisons. La première, c'est que je n'oublie pas que je travaille avec des auteurs qui ont énormément de talent et que ça incite un tout petit peu d'humilité et de modestie quand on se lance dans l'écriture. Et plutôt que de chercher à faire de l'emphase et des phrases qui tourneraient à vide comme ça, avec plein d'adverbes et d'adjectifs extrêmement bavards et prétentieux, j'ai préféré privilégier la sincérité de l'émotion pour avoir la possibilité, ce qui est le but pour moi d'un livre, de faire partager ça, de faire partager cette émotion, ces moments de beauté, ces moments de doute, de peur. Parce que pourquoi j'ai parlé aussi des moments moins glorieux, moins héroïques ? Parce que on ne peut mesurer et apprécier le bonheur que si on est passé par des périodes de doute. Et non pas que je sois un adepte de la mortification ou de la culpabilisation ou de non, c'est pas ça. C'est que la vie est ainsi faite. C'est pas moi qui l'ai voulu comme ça. La vie est ainsi faite que on traverse des moments qui ne sont pas toujours de la même saveur. On traverse des moments difficiles, mais que heureusement ces moments difficiles sont rachetés d'une certaine manière par des moments plus heureux, et que les moments heureux vous font comprendre aussi que vous n'avez pas été aussi malheureux que vous le pensiez, qu'il y a une issue. Et que les moments plus difficiles de l'existence vous font prendre avec une conscience très aiguë que les moments où vous serez heureux sont des moments importants et qu'il faut absolument, absolument immédiatement les savourer, en profiter, non pas en profiter pour être encore plus individualiste, encore plus égoïste, non, justement en profiter avec les autres. en profiter avec avec des proches, en profiter juste s'offrir la possibilité de rester, de s'émerveiller quand quelque chose, c'est pas hein, une belle lumière, un coucher de soleil, pas passer à toute vitesse, se dire non, c'est un moment, voilà. C'est pour ça que j'ai tenu à. On a besoin. Parce que là, au fond, c'est comme ça que je vois l'existence. Elle est faite de tout ça, et c'est ce qui fait aussi sa richesse et son intérêt, me semble-t-il.
Alors Montaigne a très bien parlé de l'amitié en disant parce que c'était lui, parce que c'était moi. On a aussi le sentiment d'une rencontre extraordinaire entre vous, Sylvain Tesson, Jean-Christophe Ruffin et le Mont-Blanc. C'est un petit peu ce moment extraordinaire d'amitié ou de lien presque miraculeux, enfin, en tout cas, dont vous nous faites sentir le privilège et que vous nous faites partager en tant que lecteur, justement, à travers ce récit, encore une fois, qui adopte l'ordre chronologique très simplement. Oui. Et avec une précision extraordinaire, comment se fait-il que vous vous rappeliez? Est-ce que vous aviez un journal de bord?
Oui. Oui, j'avais noté parce que. D'abord, j'ai noté parce que je ne connaissais absolument rien
au terme technique.
J'osais même pas la différence entre le granit, le calcaire. Vraiment, c'était terrible parce que il me disait de tire sur la dégaine. Alors moi, je sais pas ce que je devais faire. C'était épouvantable d'avoir un second cordé comme moi. C'était je devais tout faire. Un mousqueton, je sais pas ce que c'était. Faire un nœud de vache ou un nœud en huit.
Vaché, sec,
du mou, aval. Quand quelqu'un vous crie au-dessus, aval, par aval et sa salive, moi, voilà. Donc, j'ai tout noté. Et j'ai tout noté parce que, en l'expliquant dans le récit, parce que je crois que ça permet de bien faire comprendre le climat. Les mots apportent avec eux. Le climat de la montagne, parce que les mots techniques, les termes, un relais, une prise, enfin, tout ce vocabulaire qu'emploient les alpinistes transporte aussi avec lui un imaginaire. Alors oui, je l'ai noté. Et je l'ai mis dans le texte en le rendant avec le plus de clarté possible pour qu'on puisse, comme moi-même, comprendre assez vite de quoi il s'agit, de quoi il retourne, et s'approprier dans le texte ces termes pour soi-même pouvoir rentrer dans cette expérience.
Oui, il y a une progression qui est à la fois chronologique, mais aussi dans l'alpinisme, en fait.
Oui. Et effectivement, je connaissais Sylvain Jean-Christophe bien depuis un long moment. Jamais nous n'avions passé une semaine ensemble. Et je pense que ce moment a été l'occasion de bien nous connaître et de sceller quelque chose dans notre amitié. D'ailleurs, chaque année, maintenant, on se retrouve et on va grimper dans les Alpes avec... avec tous les trois, mais encore une fois, cette expérience que j'ai qui se passe au Mont Blanc, elle pourrait très bien se faire au Canigou, si vous voulez. Elle s'est faite là parce que c'était là, parce que,
mais vous disiez quand même que le Mont Blanc a une dimension sacrée, tout à fait spéciale, et ce n'est peut-être pas non plus un hasard si Jean-Christophe Ruffin, à ce moment-là, venait de publier Immortelle randonnée sur le pèlerinage de Compostelle.
Absolument.
Il rentrait d'une tournée de promotion au Salon de Nice au mois de juin, etc. Ça s'est passé juste après, c'est bien ça.
Ouais. Moi, je crois que les lieux sont habités par quelque chose. Je ne mettrai pas de nom dessus. Bah, j'ai mes convictions en moi, mais après, je ne veux pas prendre en otage personne. Mais moi, je pense que les lieux, surtout quand ils ont été autant... traversé par l'histoire comme dans notre pays. Fernand Braudel, le grand historien, parle de sédimentation successive, comme des couches comme ça qui se seraient accumulées, et que ce ruissellement de l'histoire, c'est ce qui fait la richesse de notre pays, parce qu'il traverse plusieurs couches et qui lui donne toute la force de notre histoire, parce qu'il y a des couches qui sont traversées comme ça. Et quand vous grimpez le Mont Blanc, le Mont Blanc... fait lui-même l'objet d'une conquête la bataille entre les hommes et le Mont Blanc, elle dure depuis 3 siècles. Et nombreux sont ceux qui s'y sont essayés. J'ai lu des livres d'histoire sur ça, c'est prodigieux. Et tous ces gens, tout s'est effacé parce que la neige a tout recouvert et que personne n'a eu la prétention, heureusement, de mettre un énorme panneau en disant « moi, j'étais là ». Mais tout est présent. Et pas simplement au Mont-Blanc. Dans toute la vallée, vous avez des petites vierges, oui. Vous avez des crucifix, vous avez des... Et tout ça est... Alors, tout ça est invisible à l'œil nu, mais dès que vous commencez à marcher et à rentrer, à zoomer, vous prenez en... Alors, vous pouvez être touché par cette dimension plus spirituelle, vous pouvez la prendre, ou alors vous pouvez la laisser de côté et ne pas... Voilà, c'est... Il n'y a rien d'obligatoire. Mais moi, il se trouve que j'y étais particulièrement sensible et que je l'ai ressenti et que je l'ai vu chez beaucoup de gens qui étaient là. Quand vous êtes en haut du Mont Blanc, proprement en haut du Mont Blanc, peut-être qu'il y en a parmi vous qui l'ont fait, vous tenez d'abord sur l'endroit le plus haut de l'Europe de l'Ouest, et ça, c'est pas ça veut. Ça, c'est, ça vous fait quelque chose, ça crée quelque chose. Tout ce que vous voyez est plus bas que vous. Je n'avais jamais été dans un endroit en France où je puisse me dire, même en haut de la Tour Eiffel, il y a toujours plus haut. Là, il n'y a rien qui va aller plus haut. Rien. C'est assez étrange comme sensation. La montagne vous offre ça. Elle vous offre cette sensation, et quand vous tournez, d'un côté il y a la Suisse, vous pouvez apercevoir le Cervin, vous tournez un peu, vous avez l'Italie, vous tournez un peu, vous avez les Aravis, et puis plus loin, vous voyez jusqu'au début de la vallée du Rhône, et puis vous tournez encore, vous avez les Aigus Rouges, vous êtes debout, sur une petite map monde, puisque vous vous êtes élevé jusque-là, il y a forcément quelque chose qui en vous s'est élevé, puisque l'ascension, je ne dirais pas l'assomption, mais l'ascension va jusque-là. Vous êtes élevé, même sur un plan strictement géographique, vous êtes élevé et vous ressentez ça.
Après, il faut redescendre.
Après, il faut redescendre.
Alors, vous êtes plus bref hein, dans le récit de la redescente, ouais. mais plus joyeux aussi, parce que
je suis libéré.
On sent bien, voilà, que ce voyage a été efficace, ouais. Qu'il a rempli le but que vous aviez rêvé.
Et j'ai eu aussi assez peur dans la descente, parce que quand vous descendez, quand vous montez, vous avez votre guide devant vous, vous avez un piolet, donc ça s'est redressé à, je sais pas, à 40% peut-être. Et quand vous redescendez, là, c'est pas pareil. C'est-à-dire que vous redescendez pas en arrière. Vous redescendez face à la paroi. Et vous avez 200 mètres de vide. Et là, vous avez donc les crampons qui sont... Mais vous êtes littéralement en train de descendre face... même en faisant des pistes de ski difficiles...
Jamais on a
fait de piste comme ça. Et c'est très très impressionnant la descente, parce que en plus il fait complètement jour, donc vous mesurez très 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 bien, vous voyez très bien les gens qui sont tout petits en bas et vous êtes tout petit en haut là, et vous êtes il y a rien qui vous sépare d'autre que le vide. Il y a ce moment, et puis après il y avait le l'ivresse d'être allé jusque-là.
Jusqu'au bout, oui, c'est une réussite.
L'ivresse du bonheur. L'ivresse du cognac, sans doute un peu.
L'ivresse des sommets.
Ouais, parce que quand vous êtes plus haut, ça tourne plus vite.
Oui. Et... Oui, alors il y a aussi une phase de la préparation qu'on n'a pas évoquée, mais l'acclimatation à l'altitude. Ça a quand même été soigneusement aussi respecté, même si un peu raccourci peut-être, par rapport à ce qu'on recommande.
Il faut 3 jours à 3600 mètres. C'est ce que disent les médecins. En tout cas, c'est ce que dit Jean-Christophe.
qui est médecin, entre autres titres.
On a respecté ça. C'est une autre inconnue. Je ne savais pas si j'étais sujet au mal des montagnes. On ne peut pas savoir tant qu'on n'y est pas allé. La réponse, elle est sur place. Alors, je ne sais pas. Bon. On peut l'avoir à un autre moment. Ça dépend si on est fatigué.
Donc, on a compris qu'on avait là un beau roman d'amitié, un beau roman d'alpinisme et aussi un roman d'une aventure personnelle, puisque c'est un défi à soi-même qu'on se lance dans ces cas-là. Si on n'a jamais fait de montagne et qu'on veut d'emblée conquérir le Mont Blanc, c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Enfin,
Mais c'est possible. Et puis, c'est le récit je réfléchis aussi dans le texte, même si je ne fais pas une thèse, je ne m'appesantis pas sur ça, mais sur ce qui m'empêchait d'aller au Mont Blanc, c'était là en fait. C'est moi qui m'étais empêché. Et je pense qu'on s'empêche beaucoup de choses dans l'existence. Alors, il y a des choses qu'on s'empêche parce qu'elles nuisent aux autres et que c'est normal, mais il y a aussi beaucoup de choses auxquelles on tient et qui nous empêchent, qui nous entravent, et que à l'occasion de ce moment d'alpinisme, j'ai compris que il fallait aussi, c'était bien, j'avais compris grâce à eux que il fallait faire le tri dans ce qui objectivement vous empêche, de ce qui plus subjectivement et plus et pour des raisons plus je dirais plus négatives vous empêche, et que voilà, si on a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, d'abord il faut le faire, et ensuite il faut le faire maintenant, c'est pas plus tard mais maintenant. Et c'est ça que j'ai appris avec Sylvain. Sylvain a cette force de conviction, à cette force de vie, cet élan vital, c'est que Sylvain, il fait les choses maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire les choses n'importe comment et dans le désordre. Mmh. Ça peut prendre du temps. Quand je dis maintenant, c'est on rêve de faire d'aller en Amérique du Sud. Mmh. Ben, c'est pas dans 10 ans. C'est maintenant qu'il faut voir si on peut le faire. Et en général, on a toutes les possibilités de faire des. Il y a tout un tas de choses qu'on fait pas, mais qu'on peut faire maintenant, et que on a vraiment intérêt à y aller, parce que ensuite soi-même
on change.
Ouais, on change, et je me suis aperçu en revenant de là-bas que je m'étais rendu plus disponible aux autres. Parce que justement, j'avais eu l'exemple sous les yeux de ces deux personnes. Parce que Sylvain et Jean-Christophe, le Mont Blanc, ils l'ont fait plusieurs fois. Donc, il n'y avait aucun intérêt pour eux à aller là-bas, si ce n'est pour le faire par
amitié,
par gentillesse, par amitié. Et vraiment, ça m'a épaté. Je me suis dit, tiens, vraiment, ils ont donné de leur temps. Ils sont très occupés. Ils ont donné de leur temps. Et on reçoit en permanence, nous-mêmes, je pense... Des signes d'amitié comme ça, et c'est important de les mesurer, de les comprendre.
Est-ce que vous avez écrit ce livre aussi parce que peu après, justement, Sylvain Tesson a fait une très mauvaise chute? C'est ce qu'on se dit en lisant le livre.
On a fait cette ascension en 2013. Il est tombé en 2014. J'étais là quand il est tombé. J'étais à Chamonix. On avait fait 2 jours avant une des courses les plus difficiles que j'ai fait avec lui. Il s'appelle les Grands Charmeaux. C'est un pic très très dur, avec Daniel Dulac d'ailleurs. Oui. Et Sylvain est tombé de ce toit dans Chamonix. Enfin, j'étais pas au chalet, parce qu'il était parti dîner avec des amis, mais lui qui a fait des ascensions extrêmement difficiles, il est tombé d'un toit. C'est absurde.
10 mètres quand même.
Non, mais d'accord, mais. Il est tombé d'un toit dans Chamonix, alors qu'il n'a pas arrêté de lancer des défis à la montagne depuis 20 ans. Là, il aurait pu tomber ailleurs. Et j'ai eu peur, il a failli mourir, donc ça m'a extrêmement
secoué.
Ouais, secoué. Ça m'a Et puis, il s'en est sorti. Il a écrit sur les chemins noirs, qui raconte ça.
Oui.
Et je peux vous dire que quand je l'ai vu aux urgences d'Annecy, il ressemblait à rien. Il était en 1000 morceaux. Tout était cassé. Il savait même pas, le médecin, s'il allait même remarcher. Donc, il est revenu après 8 jours de coma. Il s'est reconquis. Il a remarché. Il a réécrit. Il a fait tout ça. Et je me suis dit, c'est quand même exemplaire.
Et on y pense en vous lisant.
Ouais.
On pense aussi notamment dans cette scène à Notre-Dame, puisque dans sa convalescence, il s'est astreint à monter l'escalier.
Tous les jours.
Tous les jours.
Parce qu'au début, il ne pouvait que marcher.
À Notre-Dame.
Lui qui courait tout le temps, qui faisait... Il a recommencé depuis le début comme un skieur qui aurait gagné les Jeux Olympiques, commencerait par faire du chasse-neige et prendre des cours avec et passer son flocon. Vous imaginez?
Il a tout repris de zéro, quoi.
Ouais, et l'humilité, encore une fois, on reprend tout de zéro et on peut et c'est possible. Et je l'ai observé faire ça et moi-même je n'y croyais pas. Il a marché, ensuite il a monté des marches, ensuite il a fait du vélo, ensuite je l'ai accompagné pour la première fois quand il a recommencé à grimper en salle. J'étais là pour la première fois, je l'ai vu la première fois qu'il a recommencé à grimper, je l'ai vu, et voilà, et j'ai trouvé que c'était une belle, un bel exemple, et que jamais cet exemple il me l'a jeté au visage en disant moi je suis un non, jamais, c'est pas ça. Et tout à l'heure, il y a un monsieur qui m'a accompagné en taxi, et il m'a demandé ce que je faisais à Bordeaux et pourquoi j'allais chez Mola. Et je lui ai expliqué que j'avais écrit ce livre, et je lui ai expliqué un peu ce qu'il y avait dans ce livre. Et ce monsieur m'a dit que sa fille, qui a aujourd'hui 34 ans, a fait elle-même le Mont Blanc, mais que depuis l'âge de 13 ans, elle a un pacemaker. Et qu'elle a voulu faire le Mont Blanc pour se prouver qu'elle était, en dépit de cette maladie, elle était capable, il m'a raconté ça dans le taxi, de faire le Mont Blanc et d'être comme les autres, et qu'elle avait le droit, comme les autres, d'avoir ça, voilà, et qu'elle pouvait, avec son entraînement à elle, et qu'elle, alors elle a essayé une fois, elle a raté, et une deuxième fois, elle a réussi. Et moi, ça m'a beaucoup touché, cette histoire, parce que c'est une des... Il y a des tas de raisons qui font aller sur le Mont Blanc. Il y a des tas de... On ne connaît pas par où passent les gens. On est souvent étonné que... bien souvent, on ignore tout ça. Lui, Sylvain, est passé par peut-être un des pires moments. Et puis, il est revenu sans rien perdre de son allant. et c'est pour ça que la dernière scène se passe. Vous verrez, peut-être que vous l'avez déjà lu. Sylvain avait une passion avant qu'il ait son accident et que maintenant il ne peut plus faire. Il adorait grimper sur les monuments. Et donc un soir, on est allé grimper. Il m'a emmené. C'est totalement interdit. On a grimpé en juillet 2017 le Mont Blanc, et en septembre 2017, comme j'avais découvert que je pouvais maintenant grimper, un soir, il était très tard, et il m'a dit, je vais t'emmener en haut de Notre-Dame. Et alors le roman se termine sur ça, on a grimpé en haut de Notre-Dame, et je raconte ce que c'est que cette dernière ascension, et il m'a dit une chose, voilà, à ce moment-là, un peu prophétique, on était donc à un an avant son accident, et il m'a dit, tu sais Ludovic, je comprends pas pourquoi quand on a tout pour être heureux, on cherche quand même en tout cas dans son cas, à dépasser les limites et à se mettre en danger. Alors je pense que ça fait partie de sa personnalité, hein. Il est comme un peu comme Saint-Exupéry, ou c'est mais il m'a dit ça en haut de Notre-Dame, et un an après, il avait cet accident.
Oui.
Il y a beaucoup de choses qui sont,
qui
m'ont tellement marqué que, alors, je ne referme rien, je laisse tout ouvert, mais c'est dans le, c'est dans le texte.
Et... ce qui est beau aussi, ce sont ces questions justement qui nous renvoient à nous-mêmes et qui nous renvoient au monde dans lequel nous vivons. Ouais. Vous dites aussi, par exemple, que très vite dans la montagne, vous vous sentez comme ces gens sans papier qui n'ont pas de légitimité à être là où ils sont. Enfin, au détour d'une phrase, on voit aussi tout le temps cette sensibilité au monde qui nous entoure, au monde moderne.
Oui, parce que j'étais avec que des... la plupart du temps, quand j'ai grimpé là-bas, il y avait pas mal de gens que côtoient Jean-Christophe et Sylvain, et notre guide qui a été champion du monde, qui sont des gens très, très forts. Et moi, à côté d'eux, j'avais l'impression d'être un sans-papier, quoi, d'être un clandestin, de pas être à ma place là, et que j'avais toujours envie de m'excuser, de leur dire, vous inquiétez pas, dans 3 jours, je suis parti, vous me reverrez plus. Alors que j'ai plutôt l'habitude, dans ma zone de confort, mon travail, mes copains, quelle que soit la zone d'ailleurs, où je suis le bienvenu, je connais les codes. Là, rien, rien du tout. J'étais complètement, on m'avait complètement retourné là. J'étais, on m'avait confisqué ma belle assurance et mes repères.
Et là, avec ce livre, aux éditions Larive, vous vous retrouvez aux côtés de Mathieu Ricard, d'Alexandre Lacroix, de Charles Pépin. C'est un nouvel...
Ah oui,
c'est bon. C'est aussi un nouveau voisinage.
Oui, oui, oui.
Qui vous donne une nouvelle légitimité aussi.
Oui, sans doute. Et d'ailleurs, je remercie Guillaume de m'avoir offert la possibilité de... on pose parfois la question, on me demande, mais pourquoi, étant chez Gallimard... Je suis membre du comité de lecture, donc j'ai une position qui fait que. Mais je me suis dit, il faut que je joue le jeu jusqu'au bout. Je me suis plié aux règles de la montagne en respectant toutes les étapes. Peut-être en allant un peu vite, mais en respectant toutes les étapes. Eh bien, ce livre, c'est pareil. Il faut que je me plie aux étapes. Qu'elles se plient les auteurs quand ils ne connaissent pas les gens. Je vais voir quelqu'un et je vais lui proposer mon manuscrit en lui disant voilà, j'ai écrit ça, on se connaît pas plus que ça, et est-ce que ça te tente ou pas, et pas essayer de prendre un coup de fil comme ça et d'aller chez Gallimard gratter à la porte de tel ou tel ou de mon patron en lui disant j'aimerais bien le publier. Il m'a semblé que c'était que ça s'inscrivait dans le... Et puis, je voulais aussi savoir quelle était la valeur de ce texte, la vraie valeur de ce texte. Et ça, c'est important aussi, de ça.
Oui. Dans tout ce parcours du Mont-Blanc, on voit justement cette épreuve de vérité. Donc, vous êtes en cohérence vous faisant publier ailleurs que chez Gallimard, bien entendu.
J'essaie de l'être et j'ai rencontré des gens formidables et qui m'ont montré une autre manière un peu différente de celle que je pratique, de travailler, et qui est tout aussi efficace, tout aussi exaltante, et ça fait du bien.
On a donc de nombreuses raisons de lire votre livre, soit qu'on aime la montagne, soit qu'on aime le monde de l'édition, soit qu'on aime les auteurs, soit qu'on aime les défis à ses propres peurs, soit qu'on aime une écriture simple et justement une posture très honnête, très vraie dans le roman. Je vous invite donc toutes et tous à lire ce livre.